CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Qu'est-ce qui suit print?
Rien, c'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne sont pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder Bye Bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans leur futur.
La téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. De nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette émission toute spéciale du temps des fêtes de Devant vos écrans. En espérant que vous allez toujours bien, vous êtes en compagnie d'Éric Laverdure et ça pour la prochaine heure. Où est-ce qu'on va aller dans notre monde virtuel et technologique? Édition un peu spéciale aujourd'hui, en fait, étant donné qu'elle est entièrement enregistrée en mode télétravail de mon appartement. Alors, si vous entendez Victor, mon adorable chaton, faire du bruit, ben, je m'en excuse en avance, mais il est chez lui, alors il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur cette année, de technologie, sur cette année de podcast et sur cette année de jeux vidéo surtout. Ça fut une année assez longue, que ce soit à cause de la pandémie ou bien du climat politique. Nos vies en ligne et nos vies hors ligne sont de plus en plus mélangées. Nous avons le droit de nombreux débats également cette année, que ce soit pour l'utilisation du mot, de certains mots dans un contexte universitaire ou juste pour avoir le droit de lire un livre écrit par un commentateur un peu trop à droite. Bref, ce fut toute une année qui s'est principalement passée sur Internet. On a travaillé sur Internet, on s'est rencontrés, les groupes d'amis par Internet, on a dialogué avec notre famille par Internet. Bref, on a tout fait ça en ligne sans sortir de chez soi. Alors, ça fut une année assez intéressante et tout ça. Cependant, malgré toute notre utilisation d'Internet et de ressources en ligne, on a quand même oublié, selon moi, un des anniversaires les plus spéciaux cette année. Et je parle bien du 31e anniversaire de l'invention d'Internet. C'est sûr que c'est pas le 30e. C'est sûr que 31e, bon, c'est un chiffre assez bâtard là, et tout ça. Mais c'est quand même important qu'on s'en rappelle car c'est un outil de communication qu'on utilise à tous les jours et qui a vachement changé notre mode de vie, surtout depuis sa mise en service au mois de novembre 1990 par son inventeur Tim Berners-Lee. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 étapes clés dans le développement du premier réseau Internet. Après, en deuxième partie d'émission, on va revenir sur les Game Awards et sur ma sélection de balado pour passer un beau congé du temps des fêtes. Alors, on va y aller immédiatement en musique. On va aller écouter 2 chansons de mon album de Noël préféré. Oui, c'est un album que je dois bien faire jouer à chaque émission de Noël de l'un de mes projets à CFAQ. Et c'est l'album de Noël de Bad Religion's Christmas Songs, oui. Alors, on va l'écouter un doublé de punk noétique. On va l'écouter le petit gars au tambour qui s'en vient. Mais juste avant, on va l'écouter un classique de la culture anglo-saxonne. On va l'écouter God Ye Rest, Ye Merry Gentlemen. Bonne écoute.
God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's vow and we had gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now in Bethlehem in Israel the blessed babe was born and laid within a manger upon this blessed morn. Comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy. Yeah!
pom-pom. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our latest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum. When we come. Little baby, pa-rum-pa-pum-pum. I am a poor boy too, pa-rum-pa-pum-pum. I have no gifts to bring, pa-rum-pa-pum-pum. That's fit to give the king, pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Then he smiled at me, pa-rum-pa-pum-pum. Me and my drum, me and my drum.
Devant vos écrans sur les ondes du CFAK 88.3, spécial du temps des fêtes, en espérant que vous allez toujours bien. Comme mentionné en introduction, cette semaine, j'avais envie d'y aller un peu plus historiquement et de vous présenter les grandes étapes dans l'invention de l'Internet, telle que nous le connaissons actuellement. Alors, on va y aller, suivez-moi, on s'en va explorer l'histoire de l'Internet. Tout d'abord, il est important, avant d'aller trop loin, d'aller chercher pourquoi, en fait, l'idée de créer des réseaux interconnectés est plus vieille que simplement l'invention d'Internet. Les premiers textes décrivant des interactions sociales pouvant être rendus possibles grâce à un réseau d'ordinateurs étaient une série de mémos écrits par J.C.R. Licklider du MIT en août 1962, portant sur un concept de réseau galactique. Alors, un peu comme Star Wars ou Star Trek. Il imagina un ensemble d'ordinateurs interconnectés au niveau mondial à travers lesquels chacun pourrait accéder rapidement aux données et programmes depuis n'importe quel site. En théorie, le concept était très semblable à l'Internet d'aujourd'hui. Alors là, c'est là qu'on retourne à l'inventeur de l'Internet, Tim Berners-Lee, et son idée en 1989. Le Britannique, Tim Berners-Lee, travaille depuis le début des années 1980 pour le Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN, à Genève. On en entend parler beaucoup dans le Da Vinci Code, je pense que dans son Ange et Démon, le livre après Da Vinci Code, bref. Il trouva extrêmement frustrant le manque de partage d'informations entre les centaines de scientifiques du CERN. L'une des limitations est alors la variété de plateformes informatiques utilisées. Non seulement on utilisait des Mac et des PC, mais aussi des ordinateurs centraux sous Unix, qui est une forme de Linux, ainsi que des systèmes antiques ou exotiques. Alors, on utilisait n'importe quel système, et là, M. Berners-Lee était fâché parce que tous ces systèmes-là se parlaient, mais pas ensemble sur un seul réseau. En mars 1989, Tim Berners-Lee présente à son supérieur, Mike Sandel, une proposition de système de gestion de l'information pour répondre à ses propres frustrations. Un nouveau système qui serait basé sur le partage de documents hypertextuels, vagues mais prometteurs, tel est le commentaire que note Sandow sur le document, donnant ainsi le feu vert à Berners-Lee pour continuer à explorer cette piste. Alors on lui dit, vas-y mon chum, c'est le temps, explore cette piste. En mai 1990, Tim Berners-Lee soumet à nouveau sa proposition, mais il devra attendre septembre pour que Mike Sandow approuve l'achat d'un ordinateur NextCube qui permettrait de commencer à développer le système hypertextuel. Alors, un ordinateur NexCube, c'est une station de travail haut de gamme qui est produite et vendue par Nex, une compagnie d'informatique, de 1988 à 1993. C'est une machine qui utilisait un système d'exploitation NextStep, qui est un système d'exploitation qui n'était pas Windows, qui n'était pas Mac, qui n'était pas Linux. Bref, lors de sa sortie dans les années 1990, le NexCube, c'était une machine au design moderne et futuriste. En fait, c'était un cube. Plusieurs, en fait, de ces machines-là se sont retrouvées, on pourrait presque dire, au début de l'Internet. Mais en fait, a eu une grande, importance au début de l'ère informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, premièrement, oui, il y a le NextCube pour la création de l'Internet par M. Berners-Lee, mais aussi John Carmack, par exemple, le créateur de Doom. Lui aussi avait un Nex quand il a fabriqué Doom, ce jeu-là qui a révolutionné aujourd'hui le jeu à la première personne, dont on en parle encore actuellement. En fait, on parle de ses suites qui sont sorties dans les derniers temps. Mais bref, c'était vraiment un ordinateur qui était très, très, très utile. Un peu comme aujourd'hui, ou peut-être il y a quelques années, quand on disait que les Macs, c'était spécialement pour les graphismes, eh bien, le NexCube, c'était pour la programmation. C'est un ordinateur hyper puissant. Par exemple, il y a différents modèles qui ont sorti. On a eu le NexCube 030, le 040 et le Turbo. Il coûtait approximativement à l'époque 6500 US. Alors, c'est beaucoup d'argent pour cet ordinateur-là. Mais le CERN l'a payé à M. Berners-Lee. Alors, c'est alors qu'en octobre, Tim Berners-Lee développe l'embryon d'un logiciel permettant d'afficher et d'éditer les documents en hypertexte. Il baptise alors ce programme le World Wide Web. Le Belge Robert Cailliau, ingénieur en informatique qui travaille dans un autre département du CERN, est le premier converti à l'idée de Berners-Lee et il se propose pour aider au développement du projet et de gestion de l'information. C'est Cailliau qui va jouer le rôle d'évangéliste et va secouer tous les cocotiers possibles en quête d'aide et de financement pour le projet de Berners-Lee. Alors, c'est vraiment Cailliau qui va foncer puis dire au monde, hey, regardez cette idée-là, elle est super intéressante, on devrait continuer à travailler dessus. Le 12 novembre, toujours en l'année de grâce 90, le 12 novembre, Berners-Lee et Cailliau publient une nouvelle version de la proposition de système de gestion de l'information. Le premier serveur est alors fonctionnel à l'adresse nx0c01.cern.ch et héberge la première page web qui s'appelle The Project. Alors, cette date, le 12 novembre 1990, on pourrait dire ainsi que c'est la naissance du web qu'on n'a pas fêté cette année et c'est pour ça que j'en parle actuellement dans mon émission. Pour l'instant, le premier Internet était un outil de travail pour les gens du CERN. Alors, c'est à l'heure qu'en 1991, le World Wide Web sort des murs du CERN. En mai 1991, le WWW, le World Wide Web, est déployé sur les serveurs centraux du CERN, ce qui le rend accessible et modifiable par l'ensemble des employés. Les scientifiques disposent alors enfin d'un outil pour facilement organiser et partager de la documentation. En août 1991, Tim Berners-Lee publie sur le projet sur Usenet. Alors, c'est un réseau d'échange qui s'appelait le Usenet à l'époque, qui est encore actuellement utilisé pour plein d'autres choses. Il donne enfin accès au monde entier pour les premiers outils, la documentation et le logiciel. Il faut comprendre que le CERN, c'est un endroit de scientifique, c'est un endroit d'essai-erreur. Alors, c'était pas à l'époque où dès qu'on découvre quelque chose, on va le breveter pour s'assurer qu'il reste dans notre... dans notre giron d'entreprise. Non, pour M. Berners-Lee, le but était de propager la bonne nouvelle au plus grand nombre de convertis pour nous assurer que le réseau soit en place. Alors, c'est en 1992 qu'on voit réellement que l'Internet est enfin devenu devient de plus en plus populaire. Alors, de nombreuses institutions scientifiques universitaires qui connaissent les mêmes problèmes que ceux qui vivaient la CERN commence à s'intéresser de près au projet de Berners-Lee et expérimente avec les outils qui ont été mis à disposition par Berners-Lee lui-même sur le site Internet, sur Usenet en fait. Alors, à la fin de l'année, le World Wide Web est composé d'un peu moins d'une trentaine de serveurs à travers le monde. On peut par exemple penser à l'Université de Lyon en France, qui en avait un, l'Université de l'Arizona aussi, des serveurs aux Pays-Bas. Bref, plusieurs universités vont de l'avant et créent un système pour les aider à communiquer de l'information plus rapidement. Alors, on est encore loin des Facebook et des Reddit de ce monde d'aujourd'hui, mais on commence à s'approcher de cette technologie-là parce que il y a plusieurs réseaux, plusieurs universités qui sont alors en réseau et qui leur permettent de partager toute cette information-là. Avant d'aller trop loin de notre côté, bon, on va aller en musique et en publicité. Damien Robitaille s'en vient avec bientôt « Ce sera Noël » parce que oui, l'Internet et Noël est maintenant complètement connecté. surtout aujourd'hui avec l'achat des cadeaux en ligne. Alors, on va aller écouter un peu de musique de Noël pour nous faire triper et on revient à la deuxième partie de cette histoire du World Wide Web, de l'Internet telle qu'elle fut inventée par le Britannique Tim Berners-Lee. On s'en va en publicité et on revient après ça.
Wow, wow, wow. Yeah, da, dee, dee, dum. Bientôt ce sera Noël. La neige tombe sur le village et laisse un tapis blanc sur son passage. Un signe du ciel. Bientôt ce sera Noël. Chauffe dans la cheminée et des bas de laine pendus au manteau du foyer. Le rêve de tous les enfants de 4 jusqu'à 99 ans. Le vent siffle de belles mélodies comme une chorale en harmonie. Chants immortels. Bientôt ce une étoile qui touche presque au plafond. Le rêve de tous les enfants de 4 jusqu'à 99 ans. La paix et l'amour remplissent ton cœur. Le temps des fêtes, ça fait le bonheur. C'est officiel. Bientôt ce sera
devant vos écrans spéciales du temps des fêtes. On fait une petite historique, en fait, de l'invention d'Internet par le Britannique, oui, Tim Berners-Lee. Alors, avant de se quitter, avant d'aller à la musique et d'écouter Damien Robitaille, nous étions, en fait, en 1992 et il y avait vraiment une implantation de l'Internet un peu partout dans les universités. Alors, c'était des réseaux qui étaient faits pour se partager du contenu sur des recherches, mais aussi pour, du contenu, point, parce qu'une université, comme on le sait à l'Université de Sherbrooke, ça discute beaucoup entre les différents départements. Alors, en 1993, on peut dire que c'est vraiment l'année où ce que l'Internet a vraiment pris son envol. C'est une des années charnières de l'Internet. C'est là que, comme les Français disent, que la mayonnaise a pris. C'est de nouveaux outils essentiels apparaissent. Les serveurs se multiplient et surtout, grâce à l'insistance de Robert Calillo auprès du service juridique du CERN, le World Wide Web est mis le 30 avril 1993 à disposition libre et gratuite de tous, sans brevet ni redevance, ouvrant notamment grande la porte à des utilisations commerciales. On peut dire qu'à cette époque-là, c'était vraiment, en fait, le tour de pièces de monnaie, on pourrait dire le lancer de pièces de monnaie entre ce que l'Internet était et ce que l'Internet deviendra par la suite, sans l'entrée du monde commercial dans l'Internet, malgré le fait que je suis de gauche, comme vous le savez. Il n'y aurait pas l'Internet qu'on a aujourd'hui, même si... Ben peut-être l'Internet serait différent, en fait, si les universités avaient repris le combat, si les gouvernements avaient décidé de contrôler. Peut-être l'Internet serait plus un portail d'information que d'un endroit où on peut écouter plein de films louches, ou sinon, ben on peut écouter des films comme Les Mignons de Noël. En février, le National Center for Supercomputing Application de l'Université de l'Illinois rend disponible en version alpha le premier navigateur à interface graphique Mosaic pour X, pour Windows System et aussi pour l'environnement graphique de Unix, alors un système d'exploitation encore basé sur Linux. Dans le courant de l'année, Mosaic est porté sur Macintosh, Windows et Commodore Amiga. C'est le logiciel, en fait, qui est un ancêtre de Netscape Navigator que vous avez sûrement utilisé si vous êtes comme moi, des premiers colons de l'Internet, on peut dire. On utilisait pas mal tout Netscape Navigator à l'époque, qui va se permettre de populariser l'usage du web. En outre, c'est Mosaic qui va introduire l'affichage d'images dans une page web. Berners-Lee, amusé, aurait fait mine de s'inquiéter de cette fonctionnalité. Il disait à cette époque, mais ça va attirer des gens qui voudront mettre des photos de femmes nues. L'avenir prouvera qu'il n'y a pas tort, sans toutefois prévoir la déferlante d'images de petits chatons sur les internets. À la fin de l'année 93, on connaît plus de 200 serveurs HTTP et les grands titres de la presse généraliste anglophone, comme The New York Times, comme The Guardian, comme The Economist, commencent à publier des articles sur le sujet. En 1994, on voit réellement une contre-culture du web se développer. L'Internet n'est pas juste seulement pour les scientifiques dans leur bureau, mais également pour le commun des mortels et surtout les geeks, les bidouilleurs. C'est en 1994 notamment qu'on va avoir le premier Woodstock du web, on peut dire. Alors, c'est du 25 au 27 mai 1994 qui se tenait à Genève, en fait, la première conférence internationale sur le World Wide Web. Cette manifestation porte les germes d'une institution dédiée à veiller sur l'avenir du web, qui est le World Wide Web Consortium, oui, qui est le W3C, qui sera créé le 1er octobre suivant, à la fin de l'année 1994. Le CERN décide, pour des raisons budgétaires, probablement ben, ça coûte cher, le grand collisionneur de Hadron, hein, vous savez, cet endroit où on fait des tests sur l'invention, en fait sur le Big Bang et tout ça. Bref, ça coûte cher. Alors, on se dit au CERN, qu'on va se désengager du développement du World Wide Web et qu'on va transmettre les rênes à l'Institut national pour la recherche et l'informatique et automatique, le INRIA en France. Au même moment, le nombre de serveurs ne fait qu'augmenter, le nombre de serveurs HTTP, alors le nombre de sites web ne fait qu'augmenter. Alors, on a des sites comme Jerry's and David's Guide to the World Wide Web, qui est le premier annuaire de liens web qui deviendra Yahoo l'année suivante, qui se développe. Alors, des sites, est-ce qu'on va vouloir trouver? Sinon, il y a aussi la Maison Blanche, le whitehouse.gov, qui est le site officiel de la Maison Blanche, oui, qui a été mis en ligne cette année-là, en 94. On a Hotwired, le site lié au magazine Wired, Webcrawler et Lycos, qui sont les premiers moteurs de recherche web qui se développent également. Alors, on a des magazines, on a des moteurs de recherche, on a des annuaires de site Internet. Bref, ça commence à ressembler de plus en plus à l'Internet qu'on a actuellement. En 1994, également, ben, c'est aussi l'année de la première publicité sur le web et également, tenez-vous bien, l'année de la première commande de pizza en ligne qui a été une grande pizza pepperoni et champignons avec un extra fromage. Bref, une pizza que je n'aurais sûrement pas aimée à l'époque. Alors là, c'est en 94 qu'on peut dire que la fin de l'Internet, la création de l'Internet avec l'Internet moderne qu'on a actuellement commence à y ressembler. Alors, c'est déjà pour Tim Berners-Lee une grande découverte, une grande invention et qui continue aujourd'hui et aujourd'hui. Du côté du Québec, il faudra vraiment attendre l'année 1995 avant que le développement de nos ressources toutes québécoises soit en place. Alors, ce développement du web québécois apparaît en même temps qu'une grande partie de la démocratisation de l'Internet. C'est près de 100 000 Québécois qui, à l'époque, qui vont être les colons de cet univers-là web québécois. Radio-Canada, en fait, a mis son site seulement en ligne en 97. Alors, les nouvelles, à l'époque, en 95-96, provenaient de d'autres sites tels que Maintenant ou Planète Québec. C'est également en 1995 que le gouvernement québécois, avec à sa tête Jacques Parizeau, qui décide que notre État fera son virage vers l'Internet. Un virage qui n'est toujours pas terminé, car on voit, par exemple, qu'encore aujourd'hui, en pleine crise de la COVID-19, nous devons encore envoyer des fax. Bref, ça viendra. Alors, je trouvais ça intéressant aujourd'hui de faire une petite historique de l'Internet. On oublie souvent que c'est pas juste une switch qu'on ouvre dans le mur comme une prise d'eau. Et un peu comme l'eau ou la nature, ben, on semble en prendre de plus en plus pour acquis cet Internet. Alors, il faut continuer le combat, selon moi, de nous assurer que ceci soit protégé contre ceux qui voudraient en prendre contrôle au complet. On s'en va en musique avec du August Burns Red, un groupe de metalcore, mais avec une version Noël de leur chanson. On revient après la pause, en fait la pause musicale, oui. On va parler des Game Awards 2020. On va également faire des recommandations. En fait, je vais vous faire mes recommandations podcast pour la prochaine année. Quoi faire et quoi écouter pendant la période des fêtes. Alors, on s'en va à l'instant écouter ça, du gros métal. Faites attention à vos oreilles. On revient immédiatement à devant vos écrans. retour à Devant vos écrans avec Éric Laverdure en espérant que vous avez bien apprécié cette petite chanson de Noël tout complètement métallisée. Alors, métal, bruit, son, jeux vidéo, hein, on va y aller aussi simple que ça pour cette transition-là. On va parler, en fait, on va revenir sur les Game Awards 2020. J'aime bien à chaque année revenir sur cet Oscar du jeu vidéo, on peut dire. Alors, on va faire un tour d'horizon de qu'est-ce qui a remporté ou non les prix cette année. Et en même temps, ça vous permet d'avoir une certaine recommandation. Pourquoi jouer pendant ce long congé des fêtes? Peut-être c'est le temps de dépoussiérer votre vieille console ou même simplement de découvrir un nouveau jeu pour faire passer le temps et le blues pandémique. Alors, on y va à l'instant avec. On va y aller. On va garder le jeu de l'année pour le plaisir. Pour notre plaisir, on va le garder à la fin. Alors, on va y aller immédiatement avec la meilleure musique pour les jeux vidéo. Alors, cette année, ce fut meilleure musique et partition. Il y a eu plusieurs fiers compétiteurs, dont Doom Eternal, qui a eu une excellente musique, en fait, cette année. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui a gagné. C'est Final Fantasy VII, le remake, en fait, qui a remporté pour la meilleure musique. Je peux comprendre pourquoi les Final Fantasy ont souvent une attention particulière à la musique. Je vous invite à écouter Remix Ta Console, oui, qui est diffusé pratiquement tous les soirs du temps des fêtes et également vendredi pour le spécial du temps des fêtes de cette année. Sinon, du côté du meilleur jeu d'action et d'aventure, eh bien, c'est The Last of Us partie 2 de Naughty Dog qui a remporté le grand prix. Ce jeu, en fait, exclusivité PS4 et PS5, a fait couler beaucoup d'encre. En fait, il a été très, très polarisant comme jeu, étant donné certains choix d'histoire et même sexuels d'un personnage. Bref, on sait bien que les gamers, parfois, ça s'ostine pour 2-3 affaires. Alors, de ce côté-là, ben, félicitations de Last of Us Part 2, le meilleur jeu familial, plusieurs groupes en compétition pour ce prix. On avait Fall Guys, Ultimate Knockout, qui est ce jeu, en fait, qui ressemble un peu à Wipeout. On avait aussi le nouveau Crash Bandicoot. Et non, c'est Animal Crossing New Horizon, qui est sorti direct au début de la pandémie, qui se remporte le meilleur jeu de famille. Sinon, meilleur premier jeu, en fait, meilleur début de games. Alors, c'est le jeu Phasmophobia qui remporte le meilleur premier jeu par une compagnie. Sinon, du côté des meilleures performances, c'est Laura Bailey qui a gagné comme Abby dans The Last of Us 2. Sinon, du côté des jeux, du meilleur jeu, en fait, qui a continué dans mes meilleurs updates, meilleure continuation de jeu, un meilleur jeu qu'on continue de mettre à jour, eh bien, c'est No Man's Sky qui a remporté la victoire de ce côté-là. No Man's Sky, il faut s'en rappeler que quelques années, je pense qu'il y a 4 ans, était sorti un jeu qui était complètement, un peu en fait à l'instar de Cyberpunk actuellement, un jeu qui n'était pas complètement terminé, qui ne répondait pas à ses promesses et qui est aujourd'hui un chef-d'œuvre. Alors, il faut souvent, dans le monde du jeu vidéo, garder espoir que le jeu va se faire améliorer. Sinon, du côté des jeux de course ou de sport, eh bien, c'est Tony Hawk Pro Skater 1+2 qui remporte la victoire. C'est quand même drôle, un remake du Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 de notre enfance qui a été remis au goût du jour en HD avec la même bande musicale. Alors, pour les fans de Goldfinger, c'est toujours là. Bref, c'est eux qui ont remporté cette année. Du côté des meilleurs jeux en réalité virtuelle ou en... on peut dire en AR, c'est quoi AR? AR, je sais que c'est comme quand tu regardes ton écran et que là, on voit d'autres choses. En réalité augmentée, c'est ça, en augmentée réalité. Alors, il y avait en compétition de certains jeux, dont Marvel's Iron Man VR, Star Wars Squadrons, qui vous permet en fait de contrôler un vaisseau du monde de la guerre des étoiles. Eh bien non, c'est Half-Life Alyx par Valve qui a remporté le Grand Prix. De ce côté-là, c'était assez intéressant de voir Half-Life devenir dans un monde plus VR. On attend toujours le Half-Life 3, nous les fans de jeux vidéo, alors je ne pense pas qu'il va sortir, mais au moins ça nous montre que Valve sont toujours capables de faire d'excellents jeux. Du côté des meilleurs jeux d'action, eh bien, Doom Eternal est toujours en compétition contre Half-Life Alyx, contre Street of Rage 4. Mais non, finalement, c'est le jeu indépendant Hades qui a remporté le prix du meilleur jeu d'action. Un jeu que je vous recommande fortement, qui fait aussi couler beaucoup d'encre, mais par le fait qu'il est très bon. Alors, je vous le recommande. Sinon, meilleure direction artistique, eh bien, c'est Ghost of Tsushima, un jeu qui se passe dans le Japon féodal. Très intéressant, très beau, très dur comme jeu. Alors, meilleure direction artistique. Sinon, meilleure narration, c'est The Last of Us, We Part 2, qui remporte encore ce prix de ce côté-là. Du côté du meilleur jeu multijoueur, eh bien, on avait différents jeux en compétition. On pense notamment à Call of Duty Warzone, le jeu gratuit sur PC, même sur cellulaire. On pense aussi à Animal Crossing New Horizons. Et non, c'est le favori de la station Among Us qui a remporté tout ça. Un jeu très intéressant. Hein. Si vous recherchez un jeu à jouer dans le temps des fêtes, regardez Among Us. Peut-être même vos parents pourraient comprendre le but du jeu. Ça ressemble beaucoup au jeu Mafia, en fait, où on essaie de découvrir qui a fait quoi. Alors, c'est un peu ça, mais sur nos téléphones et sur nos tablettes. Alors, une autre catégorie assez intéressante du côté du meilleur jeu de rôle de l'année. Alors, différents jeux de rôle étant en compétition. On peut penser à Wasteland 3 qui se passe dans un univers post-apocalyptique. Genshin Impact qui se passe dans un monde assez fantasy, oui. Yakuza Like a Dragon qui se passe dans le monde des Yakuza dans les années 90-80. Et non, c'est Final Fantasy VII, le remake qui a remporté la partie. Meilleur jeu de stratégie, ma catégorie préférée. Comme je l'ai passé casser les oreilles, je suis un grand fan de jeux de stratégie et de simulation. Alors, il y avait le Crusader Kings 3 qui était en compétition, Desperado 3, Gears Tactics, XCOM, et maintenant, c'est Microsoft Flight Simulator, le tout nouveau, qui a remporté la partie de ce côté-là. Pour le meilleur jeu de combat, eh bien c'est Mortal Kombat 11 Ultimate qui remporte le prix. Le meilleur jeu indépendant, Hades. Meilleur jeu mobile, Among Us. Encore, le meilleur jeu soutenu par la communauté, en fait, le meilleur support de la communauté, ce qui veut dire est-ce qu'on a un développeur de jeu qui est présent, eh bien, c'est Fall Guys, en fait, hein, puis il n'y en a pas deux, Fall Guys Ultimate Knockout qui gagne. La meilleure direction de jeu, c'est The Last of Us Part 2, et le meilleur jeu de e-sport qui remporte, en fait, la palme du meilleur jeu cette année. Ça, c'est le sport électronique. Eh bien, on avait Call of Duty, comme d'habitude, Counter-Strike également, un vétéran. On avait Valorant, on a Fortnite. Eh bien non, c'est un autre vétéran qui remporte la partie, c'est League of Legends. Et sinon, ben le Grand Prix à la fin, je pense que vous l'avez remarqué avec toutes les fausses que j'ai nommées, ce jeu, mais The Game of the Year, le jeu de l'année, c'est un choix du public et non un choix des juges. Et cette année, ben c'est The Last of Us Part 2 qui a remporté le Grand Prix de jeu de l'année 2020. Un jeu qui aura été polarisé, qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'on espère que l'équipe de production n'a pas trop souffert avec toutes les menaces de mort qui leur ont été envoyées, juste parce qu'ils ont décidé de faire un personnage un peu plus intéressant. Quelle tristesse de ce côté-là. Alors, de notre côté, ben on retourne en musique. On s'en va. C'est ça, oui. On va aller en musique. On va aller écouter une chanson ou deux encore de Noël. On s'en va également en publicité. Et tout après ça, ben on en revient avec mes meilleurs balados de l'année.
Et je viens du ciel, les étoiles entre elles. Raconte une histoire qui ne parle que de toi. On dit que ta voix de miel serait sucré caramel, que ton épiderme serait fabriqué en soi.
Watch me go when I ride. Je demande rien, je prends tout pour moi. At least moi je suis honnête. Ils font pareillement plus sur moi. Je pense qu'ils changent le monde avec des élections. J'entends pas ce qu'ils disent, je veux pas des leçons. 9000 les aiment bien goûter, c'est bon. J'écoute la musique, j'ai monté le son. J'suis dans mes fears, j'suis dans mes fears, j'suis dans mes fears, don't let me go. Je goûte au réel, je goûte au rêve, je goûte au netto sur ta peau. Oh, bella oh, sans la gravité, nos corps se juxtaposent. Bella oh, mais tous les étoiles, elles viennent de là-haut.
Je vois le désir dans tes yeux, viens me hanter, feu follet. Il en faut peu pour avoir peur, le vent d'un regard pistolet. De la forêt, et jaloux de la plus petite fleur. Je prends mes valises quand je veux, je laisse envoler le pollen. Et je viens du ciel, les étoiles entre elles. Raconte une histoire qui ne parle que de toi. On dit que ta voix de miel serait sucré caramel, que ton épiderme serait fabriqué en soi.
Voler, voler, pas besoin d'elle pour voler. Pas besoin d'elle pour me sentir bien. Le vent dans les voiles, j'peux voler. Monter si haut, c'est de la folie. Tomber par amour, c'est si mollet. Le nerf de la guerre, c'est le money. J'ramasse mon salaire à Bigo maintenant. J'suis l'étoile polaire, parti pour le nord. Une bouffée d'air, une bouchée d'or. Watch me go when I. J'regarde la falaise, assis sur le bord. Comme j'me sens à l'aise, j'ai cette pensée forte. J'laisse aller le vibe, j'n'ai pas de remords. Moi quand j'aime, j'y mets
tout mon corps. J'vois le désir dans tes yeux, il vient me hanter, feu follet. Il en faut peu pour avoir peur devant ton regard pistolet. Le plus grand arbre de la forêt est jaloux de la plus petite fleur. Je prends mes valises quand je veux, je laisse envoler le pollen. Et je viens du ciel, les étoiles entre elles. Raconte une histoire qui ne parle que de toi. On dit que ta voix de miel
pris dans l'impasse qui est la nôtre. Pas une lueur que ta voix qui tremble et la solitude se vautre. Tout ça me semble irréel quand j'y pense. Pourrons-nous remonter la côte? À distance, sans que les fusibles ne sautent. Un jour, nous marcherons à nouveau ensemble, ensemble parmi les autres. Un jour, nous rejoindrons ces gens qui nous ressemblent, sans chercher à qui la de ton corps qui me frôle. N'empêche ces visions qui gagnent en latence, m'éloigne pour un temps de retour. Demain bien incertain, plus j'avance, y'a cette méfiance qui rôde.
Déjà, cette dernière partie de Devant vos écrans, on vient tout juste d'écouter Nectar de Vandoux et Ensemble parmi les autres de Vincent Vallière. Petite chanson qui nous rappelle hein, qu'on peut être avec les autres, même si on est seul. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission un peu plus différente. On est allé plus sur un sujet historique. On est revenu sur les Game Awards. Et là, vraiment, dernière partie de l'émission, ben, quelques recommandations de podcast. Ce sera vraiment court. On a tous hâte hein, d'aller faire d'autres choses que d'écouter mon émission. Hein, qui sait? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous êtes peut-être en voiture ou vous êtes peut-être à la maison. Hein? C'est sûr, hein, c'est un Noël un peu plus différent. Manuel, Nuel, oui, qui sera aussi intéressant. Alors, du côté des recommandations podcast pour un 2021 bien éclairé technologiquement, électroniquement et même politiquement, hein, alors j'ai quatre recommandations. Hein, oui, c'est pas beaucoup. C'est parce que c'est dur de trouver des podcasts que le monde va aimer parce que j'aime quand même des types de podcasts qui sont très, très, très ciblés. Alors, par exemple, comme premier choix de podcast que je recommande, un podcast tout québécois, c'est Vigile. Vigile, c'est un balado qui pose un regard novateur sur les impacts et enjeux sociaux liés à la cybersécurité et aux technologies de l'information. C'est fait par la gang de Vigile des commissionnaires du Québec, qui est un groupe, en fait, une entreprise qui est là pour vous aider dans la sécurité de vos services. C'est animé par Benoît Mercier Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants qui travaillent aussi là. Alors, chaque épisode, c'est une occasion pour l'équipe multidisciplinaire de Vigile de vulgariser de manière décontractée et instructive certaines des problématiques rattachées à la vie numérique. Très intéressant, très bon vulgarisateur et une très bonne porte d'entrée pour tous ceux qui voudraient en apprendre un peu plus sur qu'est-ce qui se passe dans le World Wide Web sans nécessairement connaître tous les termes de geek ou d'ingénieur informatique. Un autre, sinon, podcast que je trouve très intéressant, c'est Tech Won't Save Us. Les technologies ne nous sauvera pas. C'est pour, en fait, répondre à cette fameuse manica Silicon Valley de répondre à toutes les questions et d'avoir des solutions à tout. Alors, c'est chaque mardi, on a Paris Marx, qui est un journaliste canadien, qui rencontre un nouvel invité à chaque semaine qui parle d'un sujet en particulier de la technologie, mais aussi qui fait une certaine critique et des conséquences qu'apportent ces nouvelles technologies-là. Par exemple, dans les dernières semaines, on a parlé d'Amazon qui cachait les employés qui s'avaient blessés dans leur centre de distribution. Sinon, on parle aussi de Uber, on a parlé également de Spotify. Bref, il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez une vision assez à gauche de la politique, en fait, plutôt de la technologie, peut-être pas à gauche, mais je dirais plus critique, en fait. Alors, je vous recommande Tech Won't Save Us. Sinon, un autre podcast qui est assez intéressant, ça s'appelle Shitpost, en fait. C'est animé par Jared Holt. C'est un podcast qui est dédié à créer un gap, en fait, à remplir le gap, je veux dire, entre tout ce qui se passe sur Internet et les gens normaux. Alors, c'est un podcast pour savoir ce qui s'est passé sur Internet. Quand vous voyez, par exemple, qu'il y a trop de blabla autour d'une personne, là, par exemple, pourquoi tout d'un coup on parle de Turning Point USA puis de Ben Shapiro, ben, allez écouter Shitpost, ça va vous aider à en comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans l'Internet avec un grand I. Et sinon, finalement, une recommandation toute canadienne, toute québécoise également, c'est Radio-Canada et moteur de recherche en Mathieu Dugal, qui est un peu mon pas un mentor, mais que je suis un peu mon idole de la technologie, mon idole de la vulgarisation. C'est une émission que Mathieu Dugal et son équipe présentent, en fait, qui est là pour répondre à vos questions en matière de consommation, de technologie, de science, d'environnement. Bref, la façon qu'ils disent, c'est que le moteur de recherche veut donner un sens au fouillis des liens et de résultats que vos questions génèrent lorsque vous effectuez une recherche sur Internet. Alors, par exemple, quand vous tapez « Comment fonctionne l'Internet? », ben, le moteur de recherche, eux, vont aller chercher des invités pour vous aider à mieux comprendre cette question-là au lieu que vous allez cliquer sur n'importe quel lien. Bref, c'est tout ça qui pourrait vous aider. C'est une façon de vulgariser. Parce que selon eux, ben, les algorithmes nous cachent autant de choses qu'ils nous en montrent. Alors avec le moteur de recherche, on peut en savoir un peu plus. Alors c'est un peu ça qui fait le clos de mes recommandations podcast pour l'année. J'espère que vous avez apprécié mon émission tout au long de l'automne. C'est sûr qu'elle revient pour une prochaine saison en hiver. Je vais essayer de m'y mettre un peu plus, essayer de trouver des nouveaux concepts. Peut-être inviter des gens, qui sait, parce que m'entendre parler pendant une heure d'informatique, parfois ça peut devenir lassant, je sais bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'être là aussi toujours en grand nombre. Et sinon, ben, je vous souhaite de passer un excellent temps des fêtes et on se reparle l'année prochaine sur les ondes du CFAK 88.3. Je ne sais pas quand on va revenir, mais sûrement d'ici la semaine du 11 janvier. Alors, soyez là pour une autre émission de Devant vos écrans. Et sinon, pour l'instant, ben, bonne visite du web. Rappelez-vous que c'est important. Et sinon, ben, appelez donc votre mère sur Skype, ça va y faire du bien. Bye.
Qu'est-ce qui suit, Print?
Rien, c'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne seront pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder Bye Bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans leur futur.
La téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. De nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon.